Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Benjamin Netanyahou, tout sourire hier aux côtés de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a dévoilé sa vision politique pour la paix au Proche-Orient avec une solution qualifiée de réaliste à deux États, vantant son passé de fin négociateur dans les affaires. Donald Trump a surtout donné des gages à Israël, colère des Palestiniens. Nous irons à Washington et Jérusalem dans un instant. C'est officiel, le nombre d'infections par le nouveau virus en Chine dépasse celui du SRAS, 132 morts selon un tout dernier bilan. Après le Japon et les États-Unis, la France a envoyé un avion à Wuhan pour rapatrier ses ressortissants.
Et d'ailleurs, nous appellerons un Français qui est actuellement à Wuhan. Il s'agit de Thomas Bartel. Il est directeur de l'Alliance française à Wuhan, en Chine. Et donc, il sera avec nous en ligne dans une dizaine de minutes, Catherine.
Et avant la question du jour, nous arrêterons donc sur Wuhan, cette région qui produit 20 à 25% des biens en Chine destinés au monde entier. Ce virus, nouvelle occasion peut-être de relocaliser des emplois comme le souhaite Donald Trump.
Et puis à la une en France, la contestation sociale et la fin de 6 mois de mobilisation des pompiers après les engagements du gouvernement en matière de salaire et de retraite.
La retraite casus belli encore et toujours pour l'intersyndicale qui organise aujourd'hui une 8e journée de mobilisation interprofessionnelle. Du win-win, du gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est en ces termes que Donald Trump a donc dévoilé hier soir à la Maison-Blanche son plan de paix pour le Proche-Orient. Sa vision, ou plutôt le contrat qu'il propose aux Israéliens et aux Palestiniens, prévoit la reconnaissance de l'annexion par Israël d'une grande partie de la vallée du Jourdain et une future capitale palestinienne qui serait située dans la banlieue est de Jérusalem, pas à Jérusalem même. En parallèle, 50 milliards d'investissements internationaux dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur 10 ans. Grise mine côté palestinien, sourire en revanche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui était aux côtés de Donald Trump hier soir pour présenter cet accord qualifié d'historique par la Maison-Blanche, Grégory Phillips.
Il est visiblement content de lui, Donald Trump, quand il pénètre avec son ami Bibi Netanyahou dans la East Room de la Maison-Blanche. Parce que, pense le président américain, il a entre les mains l'accord ultime entre Israéliens et Palestiniens auquel son gendre, Jared Kushner, travaille depuis quasiment 3 ans. Trump, l'auteur de The Art of the Deal, l'art de la négociation, qui a bâti sa carrière et sa fortune dans l'immobilier new-yorkais, a même des accents de businessman quand il évoque le plan qu'il propose aux Israéliens et aux Palestiniens.
Dans le monde des affaires, quand j'avais une négociation un peu dure, on disait « mais c'est plus compliqué que les discussions entre Israéliens et Palestiniens ». Mais ce n'est pas vrai, il n'y a rien de plus difficile que cet accord-là.
La salle, avec une importante délégation israélienne, applaudit à tout rompre quand Trump dit que Jérusalem restera à jamais la capitale indivisible de l'État hébreu. Puis le président américain explique qu'il doit être juste aussi avec les Palestiniens. Mais là, pas la peine d'applaudir. Hier soir à la Maison-Blanche, on parlait de jour historique et de grands pas pour la paix, et Donald Trump semblait heureux, comme s'il avait réussi un gros coup dans les affaires. Sauf que dans cette négociation, l'une des deux parties n'est pas du tout d'accord avec les termes du contrat.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Les mécontents dont vous parliez, ce sont les Palestiniens. Ils n'acceptent pas les contours du futur État dessiné par Donald Trump. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Jérusalem, ville que Donald Trump souhaite conserver comme capitale indivisible d'Israël. Nous sommes loin, Frédéric, de l'État dans les frontières de 1967, ayant Jérusalem-Est comme capitale, ce que défendent les pays européens et arabes.
Ah oui, Washington accorde au futur État palestinien une capitale à l'est de Jérusalem, dans une banlieue derrière le mur de béton israélien, capitale qui serait baptisée Al-Quds, c'est le nom de Jérusalem en arabe. L'annexion d'un tiers de la Cisjordanie ne sera pas compensée par la cession par Israël d'un territoire désertique. Et surtout, Catherine, il suffit de regarder la carte avec les enclaves israéliennes et leurs routes réservées. Le futur État serait morcelé, une sorte d'archipel terrestre entouré par Israël. Les États-Unis annoncent également qu'ils n'accepteront pas de gouvernement palestinien intégrant des membres du mouvement terroriste Hamas. Mais voilà, le Hamas participe aussi aux élections. Pour la célèbre ONG israélienne B'Tselem qui lutte pour les droits des Palestiniens, ce plan est un gruyère. Le fromage pour les Israéliens, les trous pour les Palestiniens. La Palestine version Trump n'aurait pas d'armée, pas de contrôle de son espace aérien, pas de frontières terrestres avec un autre pays qu'Israël et peu de ressources en eau.
Et le volet économique du plan de Donald Trump présenté cet été avec 50 milliards d'investissements internationaux dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur 10 ans, tout cela ne suffit pas non plus, Frédéric, à calmer la colère des Palestiniens.
Oui, selon la Maison-Blanche, sur 10 ans, la Palestine pourrait doubler son produit intérieur brut et créer 1 million d'emplois. Mais vu l'aspect de cette future Palestine, on se demande bien comment une économie moderne pourrait fonctionner, avec par exemple des checkpoints un peu partout. Dans un premier temps, cet État n'aurait pas de port maritime, il dépendrait des ports israéliens et jordaniens, pas d'aéroport non plus pour les gros avions. Peut-être, sous condition, un port et un aéroport pour petits avions pourraient voir le jour à Gaza. Dans le futur, rappelons qu'à l'heure actuelle et pour plusieurs années encore, en Palestine, la monnaie, une partie des taxes et même la 3G et la 4G dépendent du gouvernement israélien.
Frédéric Mettezo, merci pour ces explications en direct ce matin de Jérusalem pour France Culture. Désormais, 132 morts et près de 6000 personnes contaminées. Le nombre d'infections par le nouveau virus en Chine dépasse celui du SRAS. Alors que le Japon et le Canada ont commencé à évacuer leurs ressortissants, un avion français atterrira demain à Wuhan, principal foyer du nouveau coronavirus, pour rapatrier donc ses premiers ressortissants français. Ils seront soumis à une quarantaine qui va durer 14 jours à leur retour, a précisé la ministre française de la Santé Agnès Buzyn, alors qu'un quatrième cas de coronavirus a été confirmé en France. Il concerne un touriste chinois et son cas est jugé sérieux, Céline Autain.
L'homme d'environ 80 ans vient de la province de Hubei, la plus touchée de Chine. Les autorités sanitaires françaises parlent d'une situation préoccupante. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Son état clinique est donc sévère puisqu'il nécessite des soins de réanimation. Évidemment, l'enquête épidémiologique est lancée, en particulier la recherche de ces cas contacts.
Une surveillance active également appliquée aux personnes rentrées récemment de Chine et à tous les signalements en cours. Jérôme Salomon l'assure, la France met tout en œuvre pour repérer les potentiels porteurs du virus et prévenir la propagation.
On est vraiment au début d'une épidémie et la stratégie est vraiment d'aller chercher la majorité des cas, d'aller vraiment trouver l'essentiel des cas, quitte à tester par excès plutôt que de laisser passer une personne qui ne serait pas testée et qui serait à l'origine de transmission secondaire.
Le centre de crise sanitaire a également mis à disposition 150 chambres d'isolement pour accueillir tous les nouveaux cas et un test diagnostique est maintenant accessible au centre national de référence à Lyon.
Et je le rappelle, un avion français atterrira demain à Wuhan, principal foyer de ce nouveau coronavirus. Wuhan, où PSA a installé son quartier général avec 3 usines automobiles en fonctionnement, un centre de formation professionnelle pour toute la Chine. Les partenaires automobiles chinois sont également présents avec Dongfeng, Apple, Samsung Electronics, Johnson & Johnson sont également dans la région. Alors, quelles peuvent être les conséquences économiques pour les pays qui ont délocalisé une grande partie de leur production en Chine ? C'est la question que Marie Viennot a posée à Daniel Haber, professeur d'économie et consultant international spécialisé dans les économies asiatiques.
On soupçonnait bien que le fait d'avoir concentré en Chine en gros 20 à 25% de la production des objets dont le monde entier a besoin, c'était une bonne chose sur le plan des prix et des coûts, mais que c'était une certaine dépendance de la Chine. Et là, on s'aperçoit que si la Chine ne peut pas livrer, effectivement, il y aura des ruptures d'approvisionnement. Il faut se dire aussi que cette crise ne va pas durer plus que quelques semaines et que surtout après, la production chinoise, elle est capable de rattraper son retard, de travailler 24 heures sur 24 et de rétablir, et il y a des stocks un peu partout. Donc je ne crois pas qu'on en soit encore à se poser des questions, comment dire, réelles, mais c'est plutôt sur l'image et sur, au fond, l'avenir. Est-ce que c'était une très bonne idée de tout mettre nos productions en Chine ? Au fond, la confrontation de Trump était de dire « rapatrions nos usines » ou « diversifions un peu nos implantations ». Je pense que ça risque d'accélérer un peu les choses, ce qui n'est pas forcément au détriment de l'intérêt de la Chine, qui est en train de passer à autre chose que d'être l'usine du monde. Elle veut être aussi le centre de recherche du monde, elle veut être aussi le centre des services mondiaux. Donc ça vient au milieu d'une grande réflexion et d'une grande restructuration en Chine.
Daniel Habert, économiste, il répondait à Marie Viennot. Il est 7h09 sur France Culture. Leur démonstration de force a-t-elle été payante? Les milliers de pompiers qui ont manifesté hier à Paris, alors que les syndicats de la profession étaient eux reçus par Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, ces pompiers ont finalement obtenu gain de cause. En partie, un accord a été trouvé. L'intersyndicale appelle donc à suspendre le mouvement à partir de samedi, après avoir obtenu une hausse de leur prime de feu. Elle passe de 19 à 25%. Préservation également des mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite anticipée à 57 ans en échange de cotisations supplémentaires. Eux descendent de nouveau dans la rue aujourd'hui face à un exécutif toujours aussi déterminé. Les syndicats appellent les salariés à une 8e journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation qui marque le pas, moins de perturbations aujourd'hui à la RATP et à la SNCF. Est-ce le signe d'un mouvement qui s'essouffle? Laurent Mauduit, qui fait partie d'un tout nouveau syndicat de la RATP, appelé La Base, croit lui en la poursuite du mouvement.
Non, on ne fait pas un constat de semi-échec parce qu'on a vécu vraiment une mobilisation sans précédent. Même 95, ça y est, on l'a complètement dépassé en termes de jours de grève. Et s'il y a un essoufflement, c'est normal. Hein, quand on perd 45 jours de paye, hein, ça fait un mois et demi de salaire en moins. Donc c'est normal aussi. Mais par contre, ça prend dans d'autres corps de métier, dans d'autres corporations. Les avocats, les enseignants aussi sont pris quand même, ils sont dans l'action aussi. Oui, c'est sûr, on aurait voulu plus. Que ça prenne ailleurs un peu plus tôt. On aurait voulu que l'outil de production soit bloqué dans les usines partout, qu'il y aura encore de temps en temps des grèves à la RATP, à la SNCF, mais qui seront plus d'une journée. Et par contre, on ne s'interdit pas de repartir si on voit qu'en France, il y a une conscience d'un coup de beaucoup de corporations. On est prêt à repartir sur un mouvement illimité. Hein. Ça, en tout cas, c'est la plupart du temps ce qu'on entend dans nos assemblées générales. Hein.
Laurent Mauduit, qui fait partie d'un tout nouveau syndicat de la RATP appelé La Base, il répondait à Anne-Laure Chouin. Laurent Mauduit, que vous pourrez entendre de nouveau dans le reportage de la rédaction à 7h24 sur les nouvelles formes de mobilisation contre la réforme des retraites dans le climat social plus généralement tendu en France. À suivre dans le journal de 7h30, le Conseil d'État qui étudie ce matin les 6 recours déposés contre la circulaire Castaner, circulaire relative au classement en nuances politiques des candidats aux municipales par le ministère de l'Intérieur. Enjeu décrypté donc dans un peu moins de 20 minutes. Le temps de ce mercredi 29 janvier marqué par de nouvelles averses à l'est, tandis que le reste de l'Hexagone profitera d'une accalmie temporaire. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 4 degrés sur le Grand Est, 3 à 7 degrés en général dans le reste du pays, jusqu'à 10 près de la Méditerranée. Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu.